Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, bébé, tu es revenu te faire battre. Tu n'as même pas transformé ton Pikachu. Tu n'as pas compris la leçon.
À ta place, j'en serais pas si sûr.
D'accord. Vérifions tout de suite.
Le challenger Sacha a choisi un Pikachu. Le champion Major Bob a choisi un Raichu.
Pikachu contre Raichu, je ne vais pas faire durer le suspense, le vainqueur est Pikachu, plus exactement dans son format Illustrator, coté sur eBay à 1 million d'euros, et certaines cartes Pokémon valent encore plus cher. Retour en podcast sur un phénomène qui déborde largement le cadre des cartes à jouer, renversant.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à découvrir sur les mêmes plateformes le nouveau podcast de la rédaction, Les Grandes Histoires de l'Écho.
La carte Pokémon que vous voyez là, elle coûte 1 million d'euros. C'est une des cartes Pokémon Illustrator, elles avaient été distribuées au Japon pendant un concours il y a quelques années.
Et cette carte, elle est là, derrière un simple plexiglas fermé à clé, entouré quand même de plusieurs agents de sécurité, souriants et affables, mais on sent bien qu'il ne faut pas trop les gratter là où ça démange, sinon l'ambiance pourrait devenir électrique. Elle est donc là et bien protégée car elle vaut 1 million de dollars, un simple bout de carton de quelques centimètres carrés, et pourtant, elle est très spéciale.
Alors cette carte-là, il faut comprendre que c'est une des cartes les plus rares en termes de nombre. Il n'y en a que 39 qui ont été distribuées dans le monde. Aujourd'hui, on n'en connaît qu'une vingtaine d'exemplaires existantes. Les autres exemplaires n'ont toujours pas refait surface, sachant que ces cartes-là ont été distribuées à des enfants à la suite d'un concours d'illustration. Donc on peut imaginer que certains enfants ont certainement dû les jeter, ou en tout cas les parents se sont débarrassés quand l'enfant s'est désintéressé à Pokémon.
Oui, c'est ballot, mais c'est ce qui fait sa rareté. Son propriétaire s'appelle Nasser, il est plus connu sous le nom de Mr. Fuji, ou Fuji pour les intimes, et il vient de mettre en vente cette carte Pokémon sur le site eBay. Je lui ai demandé d'abord comment il avait commencé sa collection.
Alors c'est comme géré comme tous les enfants à la fin des années 90, quand la Pokémon Mania a frappé la France et l'Europe de manière générale. Tout simplement, je me suis dirigé vers la franchise par le jeu IDEO, et après j'ai fini de trouver les cartes et de les collectionner pendant 2 ans activement.
Et vous en avez fait votre métier ?
Tout à fait. Donc après ces 2 ans, j'ai tout gardé dans ma collection. J'ai repris en 2014, 2 années de collection pure et simple. Et à la fin de ces 2 années, il y avait une réflexion de me professionnaliser. Et c'est tout simplement que je me suis dirigé vers l'achat-revente dans un premier temps.
Nasser, vous êtes co-dirigeant de la société MJN Collectibles et organisateur de la convention Gala TCG, qui attire chaque année des centaines de collectionneurs de cartes. Qui sont vos clients, justement ?
Aujourd'hui, on a des clients de 7 à 77 ans, tout profil. Des enfants, des moins jeunes, des plus jeunes, des gens qui veulent juste acheter occasionnellement, des investisseurs confirmés ou des gens qui veulent joindre l'utile à l'agréable en profitant de leur collection et en gardant une certaine valeur de leurs items.
Ce que vous constatez quand même, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs.
Oui, tout à fait. On marque une maturité à ce niveau-là. Faut savoir aussi qu'il y a des services qui sont associés, que ce soit du conseil, de la gradation qui peut garantir une note et une valeur de l'item, ce qui facilite l'investisseur dans sa démarche d'achat et de diversification de capitaux.
Alors, Mr. Fuji, c'est votre pseudo. Vous êtes connu, paraît-il, dans le monde entier, du moins auprès des collectionneurs, et tout ça depuis Limoges ?
Oui, alors moi je suis originaire de la région parisienne, mais je me suis spécialisé en fait dans les cartes japonaises notamment, et quand j'avais démarré, c'était surtout la communauté internationale qui était dessus, et de fil en aiguille, je me suis fait des contacts, et j'ai eu la chance d'être interviewé ou d'être sur les vidéos des plus gros youtubeurs, notamment Pokémon mondiaux, Leonhardt et Pokérev, pour n'en citer que deux.
Welcome, welcome. Please introduce yourself to the Heart Squad and everybody else out there. Thank you very much for having me here. It's such a great pleasure and an honor meeting you and be a part of the video with your community.
Thank you. So, thank you.
I'm Nasser. Mm-hmm. They know me with the name Mr. Fuji or Fuji most of the time. And I'm very happy to be here.
Et Nasser qu'on entend ici avec Leonhardt pour montrer la fameuse carte Pokémon Illustrator évaluée alors à 500 000 dollars. Une vidéo vue près de 500 000 fois. Les prix ont un peu grimpé depuis.
Pikachu Illustrator Card. Right now, holding this card, I still can't believe it. I really can't believe holding history in my hand. Go ahead and feel free to take it away as far as like how you got this card.
Nasser, qu'est-ce qui fait la valeur d'une carte ?
Alors, la valeur d'une carte, il va y avoir beaucoup de critères. Je vais en citer quelques-uns de manière non exhaustive. Il va y avoir la popularité du personnage sur la carte, la popularité de la franchise, la qualité de la carte qui est un élément très important. On a cité la gradation qui permet de donner une note neutre pour une société tierce de la carte et en combien de fois la carte a été distribuée et produite.
Dans votre présentation, vous avez oublié un point qui est quand même pas négligeable, on va dire. Vous êtes le propriétaire de la carte Pokémon Pikachu Illustrator, une carte japonaise. Sa valeur est estimée à 1 million d'euros. Ça paraît dingue.
Oui, c'est fou. Comme tout le monde en avait entendu parler, je me dis que ça ne sert à rien d'en reparler encore une fois. Effectivement, j'ai la chance d'obtenir cette carte qui est très convoitée. C'est une des cartes les plus iconiques de Pokémon. On a le Dracaufeu du set de base, qui est peut-être l'image la plus connue. Et juste après, en termes de rareté, de plus recherché, c'est bien l'illustrateur, le Pikachu Illustrator qui est peut-être le Saint Graal de toutes les cartes.
Comment vous voulez te procurer ?
Alors j'ai eu la chance en 2019 qu'un collectionneur américain qui voulait se séparer d'une partie de sa collection a proposé l'illustrateur à la vente. Je lui ai proposé une combinaison d'un achat et d'échange, donc une partie en argent et une partie en objet. Et à ma grande surprise, il a accepté. J'ai dû sacrifier une grosse partie de ma collection à ce moment-là. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai certainement fait le bon choix.
Vous vous rendiez compte à ce moment-là que vous aviez vraiment un trésor dans la main ?
Alors je me rendais compte parce que déjà même à l'époque la carte était très recherchée, on savait à quel point elle était rare, mais j'aurais pas forcément imaginé qu'on atteigne ses auteurs, en tout cas pas aussi vite.
Alors au moment où on diffuse ce podcast, la carte est toujours en vente sur eBay. 1 million, ça paraît beaucoup, mais une autre carte Pikachu Illustrator reconnaissable avec le petit animal électrique qui porte un stylo est disponible au même moment aux États-Unis et son propriétaire basé dans l'Illinois la propose en achat immédiat à 4 800 000 dollars.
L'argent ne fait pas le bonheur.
Il y a une vidéo dont on a beaucoup parlé, c'est celle du youtubeur hein, Logan Paul qui fait l'unboxing, comme on dit, la découverte d'une carte qu'il vient d'acheter à plus de 5 millions de dollars, c'est ça hein. Vous étiez là hein.
Oui, tout à fait, effectivement, c'est encore une Pokémon Pikachu Illustrator, c'est la carte Pikachu Illustrator qui est dans le meilleur état connu, donc il n'en existe qu'une. Comme c'est un marché, ce qu'on appelle le high-end, les plus grosses cartes, c'est un marché sur lequel j'étais déjà depuis 2016, un de mes clients aux Émirats Arabes Unis s'est vu contacté par les équipes de Logan Paul en lui proposant de racheter sa carte, et après c'était le jeu de négociation, donc j'ai aidé pour la partie négociation et pour faciliter le deal jusqu'à avoir eu la chance de remettre en main propre la carte à Logan Paul.
I swear to God, I wasn't convinced that you existed. They're like, yeah, you know, the Pikachu Illustrator is the most expensive card. There's some nines out there and there's rumored to be one. But you're here to represent exactly. The seller who will remain anonymous.
C'était impressionnant.
C'était beaucoup de pression, mais de la pression positive. Je me rendais compte que je vivais un moment important, donc j'ai essayé d'en profiter au maximum. Et Logan Paul était quand même très avenant envers nous et nos équipes, ce qui a fait que l'expérience était d'autant plus agréable et des souvenirs inoubliables pour soi.
Vous avez estimé le prix de votre collection ?
Aujourd'hui, c'est très compliqué d'estimer la collection. À un moment, je tenais des Excel, j'étais bien rigoureux. Mais avec l'accumulation d'objets et d'items, c'est très compliqué aujourd'hui.
Ici, le gars-là, je vous rappelle qu'il est Powered by eBay. Donc, vous avez toutes les cartes. Est-ce que je peux m'approcher un petit peu ?
Oui, on n'a pas les clés pour ouvrir, mais on pourra ouvrir tout à l'heure.
Ok, en exclusivité, les gars, je vous montre le petit Pikachu Illustrator en authentique. Mais on n'a pas que ça. On a du Lorcana juste ici qui est magnifique.
David K. Pokémon en visite au Gala TCG 2023, un événement que vous avez créé avec votre associé. De quoi s'agit-il ?
Le Gala TCG, en fait, c'est une convention où les collectionneurs de France, les vendeurs de France et même internationaux se joignent sur la partie cartes à jouer à collectionner. Donc il va y avoir des exposants qui vont acheter et revendre, il va y avoir des artistes qui vont montrer leur travail sur les cartes, que ce soit la peinture sur carte, et aussi des artistes officiels Pokémon qui viennent pour expliquer leur travail et apposer leur signature sur les cartes.
Ça c'est intéressant, c'est un nouveau marché la signature sur carte ?
Alors c'est pas un nouveau marché, mais c'est un marché en pleine expansion. C'était un marché qui était vraiment de niche où certains collectionneurs qui aimaient ce genre de cartes ou des gens qui appréciaient que l'artiste ait pu toucher entre les mains l'objet. Pourquoi ? Parce que mine de rien, les cartes à jouer et à collectionner, ce sont des cartes qui sont distribuées massivement. Et se dire que l'artiste qui a illustré le dessin sur la carte puisse l'avoir eu entre les mains à un certain moment, qui plus est, a posé sa signature et un petit croquis, ça faisait un attrait en tout cas pour le collectionneur très intéressant. Et aujourd'hui, maintenant, il y a même un marché qui s'est développé tout autour avec le type de signature qu'il peut y avoir, le type de dessin, etc. etc.
Dernière question, on est ici dans une salle pour présenter cette opération. On est entouré de plein de tableaux dont les prix sont à peu près équivalents à certaines cartes qui sont exposées juste à côté à choisir.
À choisir, bon, il n'y avait pas vraiment de choix. Ça va être mon cœur qui va parler, ça va être les cartes à jouer à collectionner. Merci à vous.
Pour tous les attraper, il va vous falloir de l'argent, plus en tout cas que pour les différents opus sortis en jeux vidéo. Le marché des cartes à jouer est devenu un marché de collectionneurs. Selon une étude YouGov pour eBay, c'est le cas de 8% des Français adultes, soit environ 4 millions de personnes qui disent collectionner activement ce type de cartes et pas seulement des cartes Pokémon.
Alors je m'appelle Alexandre Boisneau, je suis responsable de la catégorie cartes à collectionner chez eBay France depuis bientôt un an.
Comment est-ce qu'on vous est tombé dans les cartes à jouer ?
Alors ça remonte à plus de 20 ans. J'ai commencé à collectionner les cartes dans la cour de récré lors de la sortie de Pokémon en 1999. Et puis cette aventure, cette odyssée m'a amené à me tourner vers les cartes Magic où j'ai été grand collectionneur, grand joueur à haut niveau, j'ai été champion de France junior et également entrepreneur avant de rentrer chez eBay puisque j'ai monté une entreprise d'import-export dans les cartes à collectionner entre l'Europe et les États-Unis en utilisant notamment eBay qui est une référence sur le secteur.
J'ai été surpris moi par la quantité de cartes en vente sur le site eBay.
Tout à fait, donc eBay est une référence depuis plus de 20 ans dans les cartes à jouer collectionnées. En France, il y a quasiment un collectionneur de cartes sur deux qui a déjà acheté des cartes sur eBay. Et nous enregistrons chaque heure plus de 3000 recherches pour des cartes Pokémon. Donc c'est vraiment une catégorie de produits qui est stratégique pour eBay, non seulement en France, mais au niveau monde. Ça explique par exemple pourquoi on a racheté TCG Player cette année, une pépite américaine pour plus de 295 millions de dollars.
C'était pas vraiment, on va dire, le métier de base d'eBay, en tout cas au départ.
eBay, c'est une plateforme d'achat-revente, une plateforme d'enchères. Néanmoins, ça s'est fait très naturellement, à mon sens. Déjà à l'époque, ma mère se réveillait la nuit pour acheter des cartes aux États-Unis, des cartes Magic.
Pour vous ?
Pour moi, effectivement. Donc ma mère a été très, très contente d'apprendre que je rentrais chez eBay. Elle m'a fait remarquer que c'était un peu grâce à elle, et effectivement. Mais voilà, donc eBay est très fortement connecté aux cartes. Tous les collectionneurs de cartes auront eBay comme référence en la matière pour acheter et vendre. Et donc ça explique pourquoi on a tant de cartes sur le site eBay. On est la plateforme de référence parce que c'est là que les gens s'y retrouvent. Et on a aussi extrêmement mis l'accent sur la sécurité des achats, sur la protection des acheteurs. Et on peut le voir par exemple via le service Live by eBay qui propose des cartes via des enchères live où chaque carte a été authentifiée par des experts, estimée au niveau des prix pour guider au maximum les acheteurs. Et chacune de ces cartes est envoyée directement par eBay ou par l'expert directement aux acheteurs pour un maximum de transparence et une expérience d'achat optimale.
C'est quoi le record ?
Le record de la carte vendue pour l'instant sur Live by eBay est de plus de 2000 euros et nous organisons une vente ce week-end où le paquet de cartes le plus cher devrait atteindre les 8000 euros, 10000 euros.
Qu'est-ce qui fait que ce marché a décollé ces dernières années ?
Alors on entend souvent parler du terme Pokémania, des 25 ans de Pokémon qui ont démarré durant le Covid. Un peu à tort, parce que l'essor des cartes, où on entend parfois des prix de vente dépassant les plusieurs centaines de milliers de dollars, on l'a attribué au début uniquement aux 25 ans de Pokémon. Mais c'est un biais assez incorrect, parce qu'on observe que d'autres types de cartes, comme les cartes Magic, les cartes Yu-Gi-Oh! Ont également boomé à ce moment-là. Et en fait, c'est vraiment lié à une combinaison de facteurs qu'on appelle en anglais « the perfect storm », la tempête parfaite. C'est une combinaison de quatre facteurs. Le premier facteur, c'est le confinement. Les gens étaient coincés chez eux pendant le Covid, l'anxiété était au maximum. Les gens cherchaient vraiment une passion, un sens à leur vie et sont revenus vers leur passion d'enfance, vers leur nostalgie.
Ils sont allés rechercher les cartes Pokémon qu'il y avait dans les cartons.
Bien sûr, donc notamment pour les redécouvrir, compléter leur collection. Mais également, donc les autres facteurs qui ont contribué à cet essor, à ce boom durant le Covid, il y a notamment donc les stimulus checks qui ont été distribués aux Américains, plusieurs centaines de dollars, plusieurs milliers de dollars que les Américains, derrière qui n'en avaient pas besoin pour vivre finalement, ont décidé d'investir dans leur passion, dans les cartes.
On sait que c'est ce phénomène hein, qui a notamment favorisé la forte hausse de Wall Street, mais ça veut dire qu'ils ont aussi été acheter des cartes, des cartes à collectionner, Pokémon ou Magic ?
Bien sûr, tout à fait, puisque les cartes sont considérées aujourd'hui comme un véhicule d'investissement au même titre que les actions. Pour vous donner deux chiffres, le Black Lotus, donc la carte iconique de Magic, valait en 1995 $100. Un exemplaire s'est vendu récemment à $540,000, x 5 000. Sur la même période, l'action Apple a fait x 500.
Bon, c'est plus facile d'acheter une action Apple hein, qu'une carte de Magic, hein, magique, on va dire, justement, qui vaut beaucoup d'argent. Il y a un autre phénomène intéressant, c'est que ça a coïncidé aussi, c'est ce que vous expliquez, avec la montée en puissance des crypto-monnaies.
Tout à fait. Donc, il y a un lien de causalité directe entre la hausse des crypto-monnaies et la hausse qui s'en est suivie des cartes à collectionner. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, les gens qui possédaient des bitcoins se sont retrouvés multimillionnaires et ont voulu diversifier leur argent, leur investissement ou se faire plaisir. Ces personnes-là qui avaient des bitcoins, qui les ont achetés au début des années 2010, sont principalement de la communauté « geek » entre guillemets. Et il faut savoir que voilà, il y a une forte porosité entre ce milieu-là, ce milieu d'initiés des crypto-monnaies, et le marché des cartes à collectionner. Pour vous donner quelques exemples, quelques témoignages qu'on peut trouver sur Internet, des gens se présentaient sur les salons de cartes aux États-Unis et dépensaient plusieurs centaines de milliers de dollars en cash pour acheter des cartes. Et ces gens-là étaient des crypto-investors, des gens qui avaient fait fortune dans les crypto-monnaies.
Ils arrivaient donc avec leur valise d'argent pour acheter des cartes. Il y a un dernier élément qui a joué dans ce Perfect Storm dont vous parlez, c'est un YouTuber, un influenceur très connu, qui est-il ?
Donc c'est Logan Paul, c'est l'un des influenceurs les plus connus et les plus renommés de ces dernières années, qui a acheté en 2020 un Dracaufeu, une carte iconique de Pokémon, $150,000. C'était la première fois que c'était une telle transaction était médiatisée. Et c'est ce qui a vraiment apporté l'étincelle qu'il fallait pour passer d'un marché un peu d'initié, un marché connaisseur, avec une barrière à l'entrée, on va dire, à vraiment quelque chose qui était connu. Via YouTube, via cet influenceur, les gens se sont dit, c'est une nouvelle tendance, c'est là où il faut être, c'est là où il faut investir, et en plus c'est ma passion, je m'y connais parce que je connaissais Pokémon à l'époque, j'ai loupé le boom des crypto-monnaies, je veux investir dans les cartes Pokémon, et c'est pour ça que les gens se sont rués dans les Walmart aux États-Unis, les gens se sont rués dans les bureaux de tabac en France et dans les supermarchés et sur eBay également, pour acheter les cartes, compléter leur collection, surfer sur la vague, et puis se faire aussi un retour sur investissement derrière.
Certaines cartes valent de l'or. Comment est-ce que vous expliquez les prix atteints justement par ces cartes ou par certaines collections ?
Alors, le prix de ces cartes s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, un, le nombre de cartes qui ont été éditées. Donc, je vous parlais tout à l'heure du Black Lotus, la carte la plus iconique de Magic. Sans doute l'une des cartes les plus iconiques des jeux de cartes à collectionner de manière générale. La première édition du Black Lotus a été éditée en 1008 exemplaires dans le monde, il y a 30 ans. Il en existe très peu encore en circulation et très peu en état parfait. Il faut savoir qu'une carte abîmée et une carte en état parfait, le prix peut varier de x10, x100 par exemple. Donc ça c'est le premier élément, donc il en existe très peu et très peu en bon état. Et le second élément, la valeur d'une carte exceptionnelle comme ça dépend aussi de la popularité du jeu derrière. Pour vous donner quelques chiffres, Pokémon c'est la franchise la plus rentable de tous les temps, avec plus de 100 milliards de revenus depuis sa création. C'est 3 fois plus qu'Harry Potter, c'est 3 fois plus que Marvel, c'est 50% plus que Star Wars. Un autre chiffre, sur la communauté maintenant, donc de Magic, on estime qu'il y a plus de 20 millions de joueurs de cartes Magic dans le monde. C'est le second jeu de cartes le plus joué dans le monde après le poker. Et 20 millions de joueurs dans le monde, qu'est-ce que ça représente? C'est autant de personnes qui courent un marathon. On connaît tous des gens qui courent le marathon. On connaît moins de gens qui collectionnent, qui jouent aux cartes Magic, parce que c'est quelque chose un peu plus initié. On en parle moins. On s'affiche pas avec une médaille sur Facebook avec. Mais c'est quelque chose de très, à la fois niche, à la fois discret, mais en même temps très mainstream. Donc les collectionneurs, les joueurs sont tout autour de vous. Vous pouvez les trouver les week-ends dans les boutiques spécialisées, lors des tournois, sur Internet. Il faut savoir chercher, il faut savoir regarder.
C'est moins fatigant qu'un marathon quand même. Le marché des NFT a émergé il y a quelques mois. Est-ce que vous vous êtes dit « Aïe, c'est la fin des haricots pour les cartes physiques à collectionner ?»
Absolument pas. Comme vous le dites, les NFT, ça reste digital. Les cartes physiques, c'est des cartes physiques qu'on peut toucher, qu'on peut admirer chez soi dans sa collection. Un NFT sera toujours dans le même état, la carte peut vieillir, il faut, ce qui est important aussi, c'est voilà, de collectionner les cartes les plus rares dans les meilleurs états possibles. On parle par exemple parfois de collectionneurs qui avaient une carte en mauvais état et qui cherchaient absolument une carte, la même carte, en meilleur état, donc sont prêts à revendre celle en mauvais état, à rajouter de l'argent pour avoir une carte encore plus belle. Donc il y a ça qui est important. L'autre aspect qui est important, c'est l'aspect jeu. C'est bien de jouer contre quelqu'un sur un ordinateur, mais rien ne vaut le fait de s'installer à une table en face de quelqu'un d'autre avec le jeu qu'on a passé des heures et des heures à préparer. Toute la stratégie durant le jeu, toute la passion derrière, le goût du risque, etc. C'est quelque chose que les NFT ne remplaceront jamais. Et donc on peut parler de la start-up Sorare, la start-up française qui a récemment valorisé à 5 milliards d'euros, mais ça restera quelque chose en ligne. Ça ne fait pas peur du tout aux joueurs de cartes et ni aux collectionneurs de cartes. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui même encore. Magic a été la première filiale d'Hasbro à dépasser le milliard de revenus cette année. Pokémon a édité plus de 9 milliards de cartes l'an dernier. C'est vraiment quelque chose qui est plus populaire que jamais et qui est amené à un avenir très radieux.
Je me rappelle d'un test pour vérifier l'authenticité de la carte. Si on la déchire en deux et que de l'encre bleue ressort, c'est qu'elle est bien et bien vraie. Ni une ni deux pour en avoir le carnet, je la déchire et c'était super vrai.
Quelle erreur! Heureusement, celle-ci ne valait sans doute pas un million. Mais Alexandre Boisseneau le rappelait, ce qui fait la valeur d'une carte, ce n'est pas seulement sa rareté, mais aussi son état. Pour les collectionneurs, la sécurisation de ces cartes est indispensable. C'est le travail de François-Xavier Colombani, fondateur de la société PCA Grade.
Alors la gradation, c'est simple. Un collectionneur veut protéger, authentifier, donner une valeur objective à sa carte. Le collectionneur va sur le site ou se rend directement chez nous, chez PCA, nous confie sa carte. On va alors, bien évidemment, en premier lieu l'authentifier, lui donner une valeur objective, c'est-à-dire une échelle allant de 1 à 10+. J'insiste bien que cette valeur est non pas une valeur fiduciaire, mais une valeur qualitative. Deux choses sont principalement évaluées, les défauts de manipulation et les défauts d'origine.
Si elle est tachée, si elle est écornée, par exemple.
Alors voilà, ça, ce sont les défauts de manipulation. Généralement, ce sont des rayures, des enfoncements, des coins abîmés, des bords abîmés. On donne une note en prenant en compte ces défauts de manipulation, mais les défauts d'origine, c'est-à-dire tels qu'ils ont été lors de l'impression de la carte par les imprimeurs. Ensuite, la carte est mise dans un boîtier et scellée de manière inviolable. Dans ce boîtier, il y aura donc la carte et une étiquette au-dessus de celle-ci, avec les précisions de la carte et un numéro de série unique. À partir du moment où la carte est scellée de manière inviolable, cette carte devient unique. C'est la raison pour laquelle eBay permet à eBay de revendre ses cartes, parce que cette carte permet un échange. Cette carte permet de fluidifier l'achat, la revente. On donne une confiance, on donne une valeur objective. Et c'est cette confiance qui permet d'engendrer une valeur fiduciaire.
Quand elle est plastifiée, hein, parce qu'il y a un vrai, vous avez un outil industriel, c'est ça, hein, pour faire ça.
C'est ça. Alors c'est facile à dire, mais en quelques secondes, comme vous avez pu le voir avec la carte entre vos mains, mais c'est un processus très très lourd. C'est un processus qui consiste d'abord à nettoyer la carte. Le plus embêtant, en tout cas ce qu'on constate, c'est de la propreté, la poussière. Avec la carte, le boîtier ne contient aucune poussière, aucun défaut, que le boîtier n'ait pas de rayures. On a un très haut niveau d'exigence d'un point de vue contrôle qualité. Et c'est la même raison pour laquelle le temps de traitement est aussi long.
Mais est-ce que du coup, on va dire, c'est plus une carte qui sert à jouer. Là, on est vraiment dans l'aspect investissement, collection plus que jeu, en fait.
Effectivement, une fois la carte certifiée, on ne peut plus jouer. On est dans l'aspect collection, investissement.
Il y a beaucoup de contrefaçons dans ce milieu des cartes à jouer.
Alors, depuis quelques années, il y en a de plus en plus en Pokémon. En Magic, il y en a toujours eu. Elles sont de mieux en mieux faites. En Yu-Gi-Oh!, il y en a énormément aussi en japonais.
Ça coûte combien de faire certifier ces cartes?
Alors, on commence à un petit peu plus de 10 euros, on est à 11,90 euros, en fonction du délai que vous choisissez et de la valeur de la carte. Nous ne donnons pas une valeur fiduciaire, nous donnons une valeur qualitative. Cependant, lorsque le client passe commande, il choisit une valeur fiduciaire pour des questions assurantielles. Le plus bas prix est de 11 euros et on monte en fonction si vous voulez la carte une semaine, en un mois, ou en 3 mois, ou 3-4 mois.
Vous avez déjà vu passer des cartes exceptionnelles?
Oui, mais c'est comme tout métier, j'imagine. Hein, quand vous voyez passer des choses, c'est tous les jours. Malheureusement ou heureusement, on s'habitue à la chose. Avoir des cartes à 10 000, 15 000 euros, ça n'a rien de... Enfin, on est habitué, voilà. Mais j'imagine que c'est ça le professionnalisme. Vous inquiétez plus du process en lui-même plutôt que de afin que la chose se déroule de manière précise et rigoureuse.
Comment vous est venue l'idée de créer cette société?
Alors c'était avec un retour des États-Unis en 2015, ayant constaté là-bas un véritable engouement pour tout ce qui était la gradation de cartes de sport, baseball, football, hockey. Et de manière parallèle, en France, en 2015, comme on l'expliquait, il y a un véritable engouement pour les cartes de Pokémon, que ce soit du scellé, non scellé, enfin, scellé, c'est-à-dire des displays fermés ou non. On voyait que les displays d'année en année, de mois en mois, prenaient en valeur. Et on a pris le pari de faire une projection de ce qui se passait aux États-Unis en France, sur du Pokémon uniquement.
Et ça a marché.
Et ça a marché, et on a profité du lancement de Pokémon Go mi-juillet 2016 pour se lancer en même temps.
Merci François-Xavier Colombani, fondateur et dirigeant de PC Agred. Merci aussi à Alexandre Boisseneau, responsable de la catégorie cartes à collectionner chez eBay en France. Et merci enfin à Nasser alias Mr. Fuji, co-dirigeant de la boutique MJN Store. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.